Pierre-Jean Labarrière, vous êtes jésuite et vous vous intéressez de très près à Saint Jean de la Croix. Est-ce que tout croyant peut s'approcher, peut rencontrer Saint Jean de la Croix? Est-ce qu'il est accessible?
Jean de la Croix est un docteur de l'Église. Comment aurait-il été nommé docteur de l'Église s'il n'intéressait pas, par son enseignement, tout être qui appartient à l'Église? Alors, docteur de l'Église, ou comme on dit, ou comme il dit lui-même, docteur du rien. Ce qui tout d'un coup semble le mettre à distance parce que le rien fait peur. Et pourtant, je crois très profondément que Jean de la Croix, qui était un être délicieux, c'était un poète, c'était un homme qui aimait la nature, il passait des nuits à écouter les rossignols chanter. C'était un homme extrêmement accessible et tous ceux qui l'ont connu nous disent que c'était un être délicieux.
Vous avez beaucoup écrit sur Hegel, vous êtes philosophe, je crois, de formation.
Voilà.
Vous avez beaucoup écrit sur Maître Eckhart.
Oui.
Et vous êtes à Rome pour parler de
Jean de la Croix.
Alors, dites-moi un peu comment on est arrivé là.
Écoutez, tout cela dit une seule et même chose que nous allons essayer de redire ici. Je crois qu'il y a une proximité très grande entre l'esprit de Jean de la Croix et l'esprit de Maître Eckhart. Et peut-être encore plus de Henri Suzeau, car Maître Eckhart fait peur, mais Henri Suzeau est un homme lui aussi chaleureux, plein de tendresse humaine, comme l'était Jean de la Croix. Par ce côté, au moins, ce sont des êtres accessibles. Et j'ai été séduit d'emblée, quand j'ai lu une vie de Jean de la Croix, par le fait que cet homme qui a été en butte à l'église de son temps, qui a été emprisonné, qui a souffert, a toujours gardé un cœur liquide, comme il disait, et quelque chose de souple et d'intérieurement lumineux. Et j'ai été séduit d'emblée par cette lumière. Et puis j'ai eu un père spirituel jésuite qui était un grand spécialiste de Jean de la Croix. Et donc, très vite, j'ai cru pouvoir retrouver une part de mon expérience dans l'expérience même de Jean de la Croix. Je crois qu'entre Jean de la Croix et Ignace de Loyola, il y a une connivence profonde dans, précisément, j'allais dire, le choix du tout par le rien, ou l'identité du tout et du rien que ces deux grands saints ont cherché, chacun à sa façon, à actualiser dans leur propre existence.
Est-ce que nos auditeurs, chacun de nous ici, même si vous nous dites qu'il est docteur de l'Église, il y a des grands docteurs de l'Église qui ne touchent pas tout le monde, comment est-ce que nous pouvons nous approcher de lui?
Je reprendrai, si vous voulez, un texte de la Montée du Carmel. Au livre 2, chapitre 13, Jean de la Croix donne les trois signes auxquels le spirituel reconnaît avec certitude qu'une personne doit passer de l'état de méditation à l'état de contemplation. Alors, qu'est-ce que c'est pour lui, la méditation? C'est d'agencer des idées par l'entendement et de progresser de façon analytique, j'allais dire, laborieusement, en méditant sur les vérités de Dieu. Et Jean de la Croix dit, à un moment, tout être, quand il rentre dans cette voie de la méditation, éprouve d'une certaine manière, à un moment, une sorte de blocage, c'est-à-dire l'incapacité, et ça je l'ai connu personnellement, l'incapacité de poursuivre des méditations et de trouver des idées de plus en plus sublimes sur un Dieu qui est toujours au-delà des choses et que l'on n'atteint pas par l'intelligence.
J'essaye de donner un exemple. Je commence à méditer sur l'attribut de Dieu qui est sa miséricorde.
Oui.
Je médite sur la miséricorde de Dieu et à un moment donné, je ne peux plus aller plus loin. C'est ça ce que vous nous dites là?
Certainement, oui. Mais vous prenez la miséricorde qui est déjà, si je puis dire, un attribut de passage, déjà, entre la méditation et la contemplation.
Pourquoi?
Eh bien, parce que la miséricorde, ce n'est pas la froide justice ou la puissance de Dieu, créateur, etc. Toutes ces choses dont traite le discours théologique. Par exemple, si vous pensez au Dieu de miséricorde, le Dieu de miséricorde excède toutes les déterminations que vous en pourrez donner au niveau de votre intelligence et de la recherche que vous entreprenez comme telle. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'assèchement du discours analytique, du discours rationnel comme tel, dans l'accueil ou la découverte d'une présence. Je vais dire la façon dont ça m'est arrivé. Quand j'étais jeune jésuite, j'ai fait des tas de choses, j'ai connu des tas d'auteurs, j'ai écrit des tas d'articles et autres choses de ce genre. Et puis, j'ai eu une expérience fondatrice terrible qui a été la guerre d'Algérie. Je suis parti en Algérie, j'ai fait 27 mois d'armée, j'ai connu des horreurs, comme tous ceux qui sont partis là-bas. Et je me souviens que revenant en France et devant engager des études de théologie, j'étais, complètement paumé. Je me suis mis dans une maison de retraite jésuite, qui était Clamart, auprès de Paris, et j'ai dit, je vais faire une bonne retraite, là, pour retrouver mes marques et pouvoir repartir dans l'exercice d'une vie religieuse, je ne dis pas en oubliant tout ce que j'ai vécu, mais en le laissant se dissoudre pour retrouver ce que j'ai toujours connu auparavant dans mes études et dans ma formation. Je suis arrivé à Clamart et j'ai voulu faire 8 jours d'exercice. Calme plat, désolation, impossibilité de penser à quoi que ce soit. Dieu, qui sait ça? Je ne connais pas. Je veux dire le trou noir complet, sans aucune possibilité de me raccrocher à quoi que ce soit. J'ai vécu 1 ou 2 jours de désolation, comme on dit, totale, et puis je me suis dit, c'est pas moi qui ai décidé de cette réalité intérieure que je connais et que je vis maintenant. Je dois donc l'accueillir, je dois l'accepter. J'ai regardé en face cette impossibilité de prier. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'est pas dans la prière que j'avais imaginé pouvoir faire pour retrouver mes marques, mais qu'il est dans ce rien où il me met, dans ce néant que j'éprouve, dans cette incapacité de penser et de mettre une idée après l'autre. Et tout d'un coup, j'ai eu une paix extraordinaire en me disant « Bouge pas, mon bonhomme, c'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Tu sais pas ce que c'est, mais reste ici, c'est important. » Et j'ai passé 8 jours à ne rien faire, absolument rien. Je me mettais dans un coin de la chapelle, je ne pensais à rien. J'avais un espèce de vide total et je savais que c'était Dieu. Ça a été ma première expérience et c'est après cela que je suis allé trouver un père spirituel en disant « Voilà ce que j'ai connu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il m'a dit « Bon petit bonhomme, lisez Jean de la Croix. » Et c'est là que j'en viens à ce passage de Jean de la Croix, aux 3 signes qu'il donne pour passer de la méditation à la contemplation. Premièrement, ce que j'avais si fort connu, l'incapacité de poursuivre dans l'exercice de la méditation tel que je le connaissais de façon familière. Deuxièmement, et ça c'est capital aussi, ça doit être de concert les deux, ça ne veut pas dire que l'esprit étant libéré de la capacité de penser à Dieu, il se met à penser à n'importe quoi et à se réjouir d'autres choses et d'autres pensées. Ce n'est pas des distractions. Il y en a toujours, et il y en avait à ce moment-là aussi. Mais ce n'est pas des distractions dans lesquelles je prenais plaisir pour penser à autre chose. C'est le second signe que donne Jean de la Croix. Et le troisième, c'est ce que j'avais connu au terme au moins de ces quelques jours de combat. C'est une certaine paix fondamentale en disant « Je ne connais pas Dieu sous cette forme, mais il s'impose à moi dans ce silence, dans cet espace d'ouverture » où je ne sais rien, où je m'avance sans savoir quoi faire et quoi penser, et sans avoir envie de penser quoi que ce soit. Et ça, c'est le troisième signe. Et Jean de la Croix dit, c'est le signe le plus sûr. Et à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à faire qu'à rester là. Dieu travaille un petit peu comme le modeleur qui façonne la poterie qu'il a envie de tourner comme telle. Ce sont les 3 signes que donne Jean de la Croix. Et je crois que beaucoup de croyants se reconnaîtront dans ces 3 signes. Un jour ou l'autre, ils trouveront l'ennui complet de prier tel qu'ils ont essayé de prier dans leur enfance et de réciter des prières. L'incapacité de le faire en disant « à quoi bon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu est au-delà, s'il est. » Voilà la première chose. La seconde, c'est qu'ils ont envie vraiment d'être vrais et pas simplement de passer à autre chose et d'imaginer des histoires. Et troisièmement, oui, alors ces choses, cette expérience négative, cette double expérience négative, incapacité de penser à Dieu, incapacité de penser à autre chose, s'accomplit dans une sorte de silence intérieur, de vide, et c'est cela le nada de Jean de la Croix. C'est le rien, c'est le vide, dans lequel tout d'un coup on se dit « il faut rester, après tout Dieu me convoque ici, qu'il me façonne comme il le veut, je reste en silence devant lui, je ne pense rien, et simplement je lui consacre 1 heure de liberté ». En essayant de prendre une attitude d'accueil, simplement, peut-être qui peut se traduire physiquement par des mains ouvertes, simplement, en silence, comme ça. qu'est-ce que je pense? Est-ce que je sais Dieu? Est-ce que je sais faire un discours sur lui? Non, rien du tout de tout cela. Est-ce que j'ai envie de penser à autre chose? Non, je suis là parce que j'ai envie de prier, d'être vrai. Mais je n'ai rien dans l'esprit et j'attends. Je suis là. C'est cela, je crois, l'entrée dans l'oraison selon saint Jean de la Croix. À partir de là, comme il dit, sur le sommet de la montagne du Carmel, il n'y a plus de chemin.